Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Professeur émérite à Sciences Po, enseignant-chercheur associé au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la mondialisation. Cette mondialisation à l'épreuve du coronavirus, à moins d'ailleurs que ce ne soit l'inverse. D'ailleurs, qu'est-ce que cette crise a d'ores et déjà révélé des gouvernances mondiales?
Elle nous apprend... De manière douloureuse, mais elle nous apprend quand même ce qu'est véritablement la mondialisation. Ce terme dont tout le monde se gargarise, ce terme qui est souvent polémique et qui est rarement pris comme guide d'analyse. Or, que voit-on à travers cette crise du coronavirus? Trois choses auxquelles on n'a pas véritablement pensé, dont on n'a pas tiré toutes les conséquences. Première chose, le monde est au micro-social. C'est-à-dire que aujourd'hui, les stratégies individuelles, les micro-stratégies de l'un des 7,5 milliards d'acteurs est déterminant des transformations du monde. Nous dépendons d'une poignée de main qui se donne à Wuhan. Et ça, on n'a pas compris à quel point le politique était dépassé et qu'actuellement, le social gouverne le monde parce que les interactions individuelles dans un contexte de mondialisation ont plus d'importance que les décisions gouvernementales. Deuxième élément que l'on n'a pas su voir, c'est que aujourd'hui les enjeux sociaux deviennent les enjeux déterminants de notre mondialisation. C'est-à-dire, on n'a pas compris, pourtant le PNUD nous avait averti dès 1994 dans son fameux rapport que la sécurité, désormais, elle est plus humaine que politico-militaire. C'est-à-dire qu'une menace sanitaire ou une menace environnementale, vous savez, les deux phénomènes se ressemblent beaucoup, sont beaucoup plus déterminantes que les menaces militaires. À une époque où encore le monde, les États de la planète dépensent 2000 milliards en termes militaires, 2000 milliards de dépenses militaires, on ne se rend pas compte que celles-ci sont totalement impuissantes par rapport à aux vrais enjeux et aux vrais défis auxquels nous faisons face. Troisième leçon également, c'est de voir comment c'est aujourd'hui la faiblesse et non la force qui gouverne le monde. D'où est partie cette épidémie? Elle est partie d'un espace très peu sanitarisé, dans un espace, un marché très probablement de Wuhan,
en Chine,
se caractérisait par l'absence de précautions sanitaires, par une situation élémentaire d'organisation sociale et commerciale. C'est d'un foyer de faiblesse que tout est parti. La puissance subit, la faiblesse agit. Ça, c'est aussi la marque nouvelle de la mondialisation. Eh bien, il serait temps de prendre conscience de ça. Il serait temps que les gouvernements comprennent que la sécurité sanitaire du monde est autrement plus déterminante que la sécurité politico-militaire, que dépenser pour la santé est infiniment plus important que de dépenser pour se targuer d'avoir un arsenal nucléaire qui aujourd'hui ne sert plus à grand-chose.
Alors, parmi les trois enseignements que vous tirez ce matin, je retiens que les enjeux sociaux sont déterminants. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a dit qu'il prendrait les mesures nécessaires, quoi qu'il en coûte. Cela veut dire l'État protecteur fera fi des contraintes et des équilibres budgétaires. Est-ce que c'est un virage social de la politique d'Emmanuel Macron? C'est un tournant keynésien peut-être même?
Alors vous avez raison de le souligner. Et effectivement, l'allocution du président de la République semble s'apparenter à l'âge 2 du macronisme, c'est-à-dire la découverte du social. Et à travers la découverte ou la redécouverte du social, c'est une fantastique mise au point sur la mondialisation qui est en train de s'opérer. La mondialisation depuis 1989, la chute du mur, la disparition de la bipolarité, de la compétition entre idéologies, a été entièrement livrée entre les mains des opérateurs économiques. C'est le néolibéralisme qui gouvernait le monde. Et l'effet de cette néolibéralisation de la mondialisation a été deux choses. D'asphyxier le politique, si vous avez remarqué, il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus de choc entre modèles de cité, et surtout de dissoudre le social. Le social était reconverti par le néolibéralisme comme étant un effet de ruissellement. Growth is good for poor. La croissance est bonne pour les pauvres parce qu'ils finiront par en profiter. Regardez cette incroyable année 2019, avec cette multiplication des mouvements sociaux dans des lieux extraordinairement différents, mais qui convergeaient tous vers la revendication d'un retour du social. Mmh. C'est-à-dire prendre en compte l'humain avant de prendre en compte l'homo economicus
et
le marché.
Ce que n'a pas fait Emmanuel Macron, vous estimez, depuis le début de son mandat?
Comme les autres.
Alors justement, parlant de l'Union européenne, n'est-ce pas là aussi on pointe du doigt l'impuissance de l'Union européenne? Il y a pas de coordination. Christine Lagarde l'a dit et redit, elle l'a souligné l'autre jour.
Et elle en est l'acteur. Son incapacité de faire preuve de réaction et de réactivité à cette situation, l'incapacité totale de la Banque centrale de répondre aux craintes des marchés financiers est quand même très révélateur. Et vous avez
Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus, la BCE? Baisser encore un taux directeur qui est déjà à zéro ou négatif?
Oui, et redéfinir une politique financière et monétaire pour l'Europe.
Elle a dit donner une réponse budgétaire ambitieuse et coordonnée.
En renvoyant la décision à chacun des États.
À chacun des États. Alors, vous avez raison de mettre le doigt sur cet aspect, parce que c'est l'aspect peut-être le plus triste et le plus effrayant de tout ce que nous vivons autour de cette crise du coronavirus. C'est-à-dire que l'Europe, l'intégration européenne, telle qu'elle s'était mise en marche au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devait être l'échelon intermédiaire et fonctionnel entre le nationalisme d'hier et la mondialisation de demain. L'Europe bien conçue, c'était un sas, une antichambre à la mondialisation.
Mais là, tous les pays ne sont pas impactés de la même manière en Europe.
Mais oui, mais justement, vous mettez en évidence quelque chose qui est très important, qui est que les intérêts nationaux, entre guillemets, parce que ce concept mériterait d'être lui-même critiqué, les intérêts nationaux ont largement le dessus sur l'intérêt global. Ce qui est absurde. Pourquoi est-ce absurde? Parce que dans un monde tel que je le décrivais tout à l'heure, dans un monde globalisé, il n'y a véritablement d'intérêt que collectif. Il n'y a de bien que véritablement commun. C'est-à-dire, la Tchéquie ou la Pologne sont protégées aujourd'hui contre le coronavirus, ils seront nécessairement impactés s'il n'y a pas une réaction commune et globalisée. C'est ce qu'on appelle la gouvernance globale. Cette gouvernance globale a complètement quitté l'espace européen. L'Europe a eu de grands succès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait deux objectifs sur lesquels tout le monde se rencontrait. D'une part, éviter une troisième guerre mondiale intra-européenne et deuxièmement, reconstruire une Europe complètement exempte suite au deuxième conflit mondial. Aujourd'hui, ces deux objectifs sont atteints et ce qui est dramatique, c'est de constater que l'Europe ne se refonde pas sur la découverte de nouveaux intérêts communs et collectifs qui sont liés notamment à l'entrée dans la mondialisation. Ce négationnisme total fait que non seulement on ne progresse pas dans l'intégration, mais on vous agite l'emblème nationaliste comme étant la solution de toute chose. Il y a certains chefs d'État qui en sont à songer d'obliger les virus d'avoir un visa pour entrer dans les États. Vous voyez l'absurdité de la situation dans laquelle
nous
nous trouvons.
Je ne vois pas du tout à qui vous faites allusion.
Ce sont les propos de Donald Trump notamment.
Mais
quand Emmanuel Macron dit qu'il veut unir l'Europe et Donald Trump pour juguler cette crise, vous êtes en train de nous dire que ça restera un vœu pieux.
Je crois que la ligne d'Emmanuel Macron, et depuis son élection, a été de dire, et il avait totalement raison, qu'il est urgent de refonder l'Europe, mais très vite aussi de constater qu'il était le seul à le penser ou à le souhaiter, à condition qu'il le pensât et le souhaitât vraiment, ça c'est autre chose. Mais n'ayant aucun écho ailleurs, ce projet de refondation ne pouvait pas progresser. À partir du moment où il ne retrouvait aucun partenaire sur son chemin, je crois qu'il est de bonne guerre et logique de sa part qu'il dise « Écoutez, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, je vous ai dit à quel point il était important de progresser dans la construction européenne, je constate que c'est les autres qui ne veulent pas. » Et là, il a raison, c'est-à-dire la titanie allemande liée...
Est-ce qu'Angela Merkel va pouvoir bouger? Là, elle est prête à abandonner le...
Vous l'avez déjà vu bouger?
Pardon,
c'est bien ce que Emmanuel Macron lui reproche.
Oui, elle ne bouge pas. Et elle ne bouge pas parce qu'elle est tétanisée. Elle est tétanisée par quoi? Elle est tétanisée d'abord par une fragilité très grande de sa coalition. Elle est tétanisée parce qu'il y a une poussée de désirs nationalistes en Allemagne et que regarder en face cette poussée nationaliste, c'est risquer de l'amplifier parce qu'effectivement, plus vous dénoncez le nationalisme, plus vous l'entretenez. Et ça, c'est le grand paradoxe dont nous sommes tous victimes.
Alors, il y a la paralysie de l'Europe, il y a aussi les ambitions d'Emmanuel Macron qui veut proposer à Donald Trump quelques mesures de coordination mondiale pour juguler cette crise. Il veut les proposer au sein du G7. Pourquoi ? Parce que ce sont les États-Unis en ce moment qui président le G7. Ce serait quoi les types de mesures qu'Emmanuel Macron pourrait proposer à Donald Trump au sein du G7 ?
Vous avez raison de vous poser la question. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin du G7 pour ça. Le G7 peut à la rigueur réveiller un certain nombre des oligarques du monde, puisque c'est un club oligarchique. Mais nous avons tout un système qui est en place depuis 1945, qui est le multilatéralisme, et ce multilatéralisme contient tous les éléments pour procéder à une véritable gouvernance globale du monde. L'OMS, on la voit se réfugier dans une rhétorique un peu courte et un peu plate.
Elle a eu du mal à utiliser le mot pandémie, par exemple.
Oui, enfin, comme vous dites, on reste dans la rhétorique. Alors que l'OMS est une organisation infiniment respectable qui a à son crédit, à son actif, de grands succès. Comme par exemple l'éradication de la variole en Afrique. On l'oublie trop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'OMS est armée pour être un véritable acteur de cette gouvernance globale, de cette gouvernance sanitaire globale. Si elle ne peut pas le faire, c'est parce qu'elle rencontre le souverainisme des États qui bloque toutes ces initiatives. Si bien que le malheureux directeur de l'OMS est obligé de se contenter de communiquer plus ou moins affolé et désolé, mais ne peut pas aller dans le sens concret. Or, la solution, elle est dans cette coordination entre les politiques nationales.
Et quand Donald Trump tacle au passage la gestion européenne de cette crise du virus, qu'est-ce qu'il dénonce finalement, Donald Trump, à cette gestion européenne ? C'est l'État-providence à la française, mise en évidence d'ailleurs par Emmanuel Macron jeudi dernier dans son allocution télévisée ?
Oui, mais avant cela, il y a plus évident, c'est-à-dire que la rhétorique trumpienne est une rhétorique totalement, exclusivement constitué à partir des éléments de langage nationaliste. Et dans ce contexte préélectoral, ça veut dire des choses très précises. Ça veut dire qualifier, comme il l'a fait, le coronavirus de virus étranger, ce qui est une absurdité, je dirais même mentale, parce que c'est exactement le contraire. Ça veut dire considérer que ce sont les autres États qui attaquent les États-Unis. Et là aussi, cette idée d'attaque était présente.
En l'occurrence, une attaque européenne.
Voilà.
Mais et quand il dit aussi que le système de santé est prêt aux États-Unis à faire face à ce virus, c'est faux.
Oui, ça se saurait s'il était prêt. D'abord, vous savez, il y a un sondage très intéressant qui a été fait qui indique qu'une minorité d'électeurs républicains craignent le coronavirus, tandis qu'une grande majorité des électeurs démocrates le craignent. Comment expliquer cette différence ? L'électeur républicain est généralement plus riche et donc n'a pas trop peur de se faire soigner, alors que c'est un drame pour les classes moyennes et les classes inférieures aux États-Unis de se faire soigner parce que c'est extrêmement cher.
Déjà, se faire dépister, ça vaut 3 000 $.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'expression même de la faillite du système de santé américain.
Et les coupes budgétaires que Donald Trump a lui-même initiées dans
absolument,
le système de santé.
Absolument, alors que Barack Obama avait essayé de progresser dans cette voie. Donc, il y a une rhétorique, il y a un conservatisme. Ce conservatisme économique, si vous voulez, en matière de santé, et ce nationalisme de stigmatisation de l'autre, c'est ce que veulent entendre ses électeurs. Donc voilà, c'est le meilleur message électoral que ce monsieur peut lancer, mais il est en train de déglinguer la planète.
Sauf que Bernie Sanders, l'un de ses concurrents démocrates, lui, prône une couverture santé gratuite, ce qui est du socialisme et donc un gros mot aux oreilles de Donald Trump. On arrête avec les États-Unis, pardon de vous couper, je voudrais parler de la Chine, il nous reste que quelques minutes. Est-ce que la Chine est parvenue à faire oublier son camouflage du début de crise ?
Première remarque, je le dis avec prudence, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste de questions sanitaires et ensuite parce que l'histoire n'est pas tout à fait finie, il semble que la Chine ait réussi à juguler cette épidémie à l'époque, chez elle, de manière assez efficace et même spectaculaire.
On peut lui faire confiance dans la propagande du moment où l'on envoie un chef d'État à Wuhan, justement. C'est de la propagande ou est-ce qu'on peut faire confiance à la Chine quand elle dit qu'elle a la main sur ce... cette crise sanitaire?
Je pense qu'un gouvernement raisonnable ne prendrait pas le risque de dire que la crise est terminée et que les activités économiques peuvent reprendre s'il n'était pas sûr qu'en disant ça, il risquait de tout faire repartir encore plus fort. Donc, il semblerait, c'est pour ça aussi que je parle avec prudence, que la Chine ait réussi un tour de force. N'oubliez pas que la Chine, c'est 1,3 milliard.
Et que les Chinois restent très calmes face à cette affaire.
Alors voilà, il y a un effet régime, c'est-à-dire en Chine, lorsque le gouvernement donne un ordre, on l'applique parce qu'on aurait trop peur de ne pas l'appliquer. Et puis, il y a aussi un élément culturel, c'est-à-dire un sentiment holistique, c'est-à-dire de rassemblement, de cohésion sociale naturelle, qui n'existe pas, bien entendu, dans des sociétés individualisées. Donc, c'était culturellement et politiquement peut-être plus facile pour la Chine, mais encore fallait-il le faire. Ça a été fait. Je crois que c'est aussi source d'enseignement pour nous, et aussi probablement de repenser notre lecture de l'altérité. C'est-à-dire comprendre que pour que moi je gagne, il faut que l'autre gagne. Nous nous sommes installés depuis quelques siècles dans une culture où pour que je gagne, il faut que l'autre perde. Or, le monde actuel, c'est plus du tout ça. Le monde actuel, c'est si je veux survivre et si je veux gagner, il faut que l'autre puisse survivre et gagner. Donc j'ai intérêt à protéger l'autre pour finalement me protéger moi. Ça, c'est la nouvelle grammaire de la mondialisation. Ce que la Chine était en mesure, comme vous le disiez fort bien, de faire peut-être avec plus de facilité que nous, mais que nous devons apprendre à faire. Ah, ben ça veut dire... casser les ressorts d'un néolibéralisme échevelé, ça veut dire aussi savoir relativiser la notion d'intérêt national, ça veut dire savoir gouverner avec l'autre, et pire encore, l'autre, même s'il ne nous ressemble pas, et même si nous ne l'aimons pas, faudra apprendre à gouverner avec les Iraniens. Regardez, Trump a asphyxié l'économie iranienne. Résultat, le système hospitalier en Iran ne fonctionne pas. Résultat, l'Iran est un des foyers principaux de contamination au virus. Résultat, ça fera boomerang sur les États-Unis. Qui gagne dans cette
affaire ? Merci beaucoup Bertrand Badie d'être venu ce matin parler de la géopolitique de ce coronavirus. Bertrand Badie, j'indique d'ailleurs au passage le titre de votre dernier livre, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. C'est paru à l'automne dernier chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer ce matin sur France Inter, Christian Badie.
Bertrand Badie,
évidemment.
Oui, d'habitude, on m'appelle Bernard, mais mon vrai nom,
Bertrand Badie, le bien nommé. Merci et bonne journée.